Une vie, une œuvre, Michel Rocard, 1930 Courbevoie, 2016, Paris. Bonjour. À 19 ans, le jeune Michel-Louis Léon Rocard s'engage dans la mouvance de la SFIO. 9 ans plus tard, déçu par Guy Mollet, il s'associe à la mise en place du PSA, Parti Socialiste Autonome, qui donnera naissance au PSU en 1960. Il mène un temps une double vie, sous le nom de Georges Servet, afin de pouvoir agir tout en étant haut fonctionnaire. En mai 1988, François Mitterrand, réélu, nomme Michel Rocard Premier ministre. Il en résultera la création du revenu minimum d'insertion, RMI, le retour à la paix civile en Nouvelle-Calédonie et l'institution de la contribution sociale généralisée, CSG. C'est dans son cabinet que Manuel Valls commence son parcours politique. Plus tard, ce sera Nicolas Sarkozy qui lui confie les fonctions d'ambassadeur, chargé de la négociation internationale pour les pôles Arctique et Antarctique. Ses cendres reposent à Monticello, en Haute-Corse. Virginie Bloch-Lenné signe avec Clotilde Pivin, Une vie, une œuvre, Michel Rocard.
Moi, je suis né en 1930, c'est-à-dire que j'ai 10 ans quand la France est occupée. Je fais mes études sous occupation ennemie. L'orientation prise par mon père implique que tout le monde se méfiait de tout le monde. Il traînait des documents étranges à la maison. Nous sommes notamment l'une des 340, il y en a eu 340 familles qui furent destinataires du silence de la mer quand il est sorti des presses en clandestinité. Et ça, mon père avait bien voulu me le laisser lire, mais à condition que dès qu'on entendait l'ascenseur bouger, il fallait que je le mette sous le matelas. La découverte qui m'a conduit en politique, elle est pas seulement que tout ça a été affreux, et l'apprentissage, juste après la guerre, 16 ans, à l'école, que Hitler était un élu du suffrage universel. C'est cette découverte-là qui m'a fait dire, mais non, c'est tout à fait important la politique, je n'en suis pas sorti. Et l'éducation religieuse protestante que j'ai reçue, avec un pasteur extraordinaire qui s'appelait le pasteur Eschiman, a beaucoup contribué à cette orientation que j'appellerais civique. Quoi. Voilà comment s'est fait mon engagement.
Michel Rocard, l'éthique de responsabilité. Une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin.
Nous avons été dans la famille beaucoup choqués par ce que tous les médias ont repris en boucle. Voilà.
Francis Rocard.
Jusqu'à une question d'une journaliste qui était « Mais comment expliquez-vous que Michel Rocard ait demandé un hommage national ?» En fait, mon père n'a jamais demandé. Il n'aurait jamais demandé. Mon père connaissait très bien la Constitution. Il sait que ça relève du président de la République. Il avait formulé dans une lettre qu'il avait écrite peu de temps avant son décès, « Je ne demande rien à l'État ». C'est écrit comme ça. Si le président de la République le décide, alors je souhaiterais que Edmond Maire fasse un hommage, etc. Alors, en plus, on avait même hésité à faire une dépêche, et puis on s'est dit « Non, on va agir comme mon père, on va agir sur le temps long ». C'est-à-dire que le temps long, c'est que quand l'occasion se présente, comme par exemple ici, rétablir la vérité.
Donc il y a eu cet hommage national, il y a eu d'autres cérémonies.
Oui, dans cette lettre, ouais. Il avait un peu préparé et souhaité qu'il y ait une cérémonie dans un temple protestant. Bon, en l'occurrence, ça a été le temple de l'Étoile. Et il a bien précisé que, quoique agnostique, alors il est d'une famille protestante, mais sa propre mère était une convertie au protestantisme, ce qui est assez pas très courant. Et mon père il explique bien avec ses mots, que je vais essayer de ne pas trop déformer, il a voulu cet hommage au temple parce que il trouvait que l'éthique du protestantisme lui convenait.
Le milieu de votre père, Francis Rocard, c'était un milieu de moyenne bourgeoisie.
Moyenne ou haute bourgeoisie, je ne sais pas trop comment le dire. Mon grand-père était un grand physicien de l'après-guerre, à l'École normale supérieure. Il a été 15 ans directeur de ce laboratoire. Il a un peu reconstruit la physique d'après-guerre à partir de 1946. Et ma grand-mère était une institutrice savoyarde, très fière de l'être. Et leur union n'a pas très très bien marché, puisqu'ils se sont séparés, je crois, en 1965. Et donc moi, j'ai connu ma grand-mère d'une part, mon grand-père d'autre part, mais dans un contexte où ils étaient séparés.
C'était rare à cette époque.
Peut-être, oui. Ouais. En tous les cas, pour moi, c'était mon quotidien.
Ouais.
Et ma grand-mère n'était pas une femme facile. Mon grand-père non plus, d'ailleurs. Les deux avaient des caractères très forts. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ont divorcé. Mais ma grand-mère était assez rigide. Peut-être que ça explique l'éducation qu'a eu mon père et de pousser à l'excellence, en tous les cas, à de faire des choses à fond et pas dans la demi-mesure. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné avec lui, c'est que il se donnait à fond dans ce qu'il faisait, que ce soit à l'agriculture, que ce soit à Matignon, que ce soit au plan. Il se passionnait très vite, quoi. Et voilà, il était à 100% tout le temps.
Mais mon père était rude, bon, c'est vrai. Simplement, en plus, il y avait une chose extrêmement grave, c'est que la transmission génétique n'assure pas celle des disponibilités chromosomiques. Je suis nul en mathématiques, en sciences physiques, en sciences exactes. C'est-à-dire que j'étais bon à rien dans les domaines qui étaient à ses yeux ceux de la réussite. Et quand j'ai déclaré forfait en allant m'inscrire à Sciences Po et en quittant l'hypotope, c'est-à-dire la classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, il a rompu les ponts, il m'a dit « t'es un con, je ne m'occupe plus de toi », en gros. Et il a tenu parole, il m'a guère adressé la parole pendant 5 ou 6 ans qui suivaient. Ça ne changeait que peu de choses, puisqu'on se parlait peu, c'était quand même pas très commode. Puis surtout, il avait accepté que je reste à la maison, logé, nourri, blanchi, mais je n'avais plus d'argent de poche. Et il a pris une décision extrêmement fructueuse pour moi, pour l'avenir, inattendue d'ailleurs. Il m'a dit, t'as plus d'argent de poche, mais en plus, ce que tu vas faire, c'est inouï ça. Il me dit ça, j'ai 17 ans, il me dit, tu vas apprendre à baratiner, et tu vas apprendre à coordonner les autres, comme il disait, c'est-à-dire à les empêcher de travailler. Et en effet, quand on est législateur, on fait des règles qui empêchent les autres de travailler. Et ça l'indignait beaucoup. Pour lui, il n'y avait de participation à l'aventure humaine que par la création scientifique. Tout le reste était du parasitisme ou de l'esthétisme. Et donc, pour empêcher ça, il m'a dit, t'as besoin d'argent puisque je viens de te le couper, et tu as besoin d'apprendre quelque chose qui te résiste. Ce qui est philosophiquement formidable, cette phrase. Alors, comme t'es trop bête pour que ça soit les sciences exactes, mais papa, je suis pas si bête, mais enfin, t'es trop bête pour que ça soit les sciences exactes, faut que ce soit la matière, je t'embauche comme tourneur-fraiseur dans les ateliers de l'École normale supérieure. Et j'ai donc financé mes deux premières années d'études à Sciences Po en étant 10 heures par semaine. C'était tout, mais ça suffisait à ce que je me paye mes cours et mes costumes. 10 heures par semaine, tourneur-fraiseur, dans les sous-sols du grand laboratoire de la rue Laumont, en fabriquant les prototypes bizarres que mesdames et messieurs les chercheurs, à l'étage au-dessus, inventaient dans tous les coins. C'est une expérience absolument fabuleuse. Et ce fut d'autant plus étonnant que je suis tombé, mon contremaître, mon chef, était un extraordinaire tourneur, un homme d'une habileté autour et à la fraiseuse fantastique. Mais c'était surtout un ancien des brigades internationales en Espagne, probablement un vieux trotskiste, je pense, enfin, il n'avait pas été communiste, et qui, pendant les centaines d'heures où nous avons été côte à côte, il m'a raconté l'histoire de la classe ouvrière, c'est-à-dire Malais Isaac en blanc contre noir. Et le Front populaire, naturellement. Ouais. Et tout ça m'a ouvert des horizons que j'ai beaucoup cultivés. C'était pas prévu par le calcul de mon paternel. Voilà.
En quoi c'était très important dans la personnalité de Rocard, le protestantisme ?
On en a beaucoup parlé déjà.
Oui.
C'était très important parce que c'est il a longuement dit et répété, c'est le fondement de ses convictions éthiques.
Pierre Encrevé.
C'est ça, le protestantisme pour lui, c'est les racines de son éthique politique. Et je pense qu'effectivement, c'était vrai déjà pour les camps de regroupement, et c'était vrai partout. Et donc, oui, c'était très important, je rajoute, puisque vous me le dites, après qu'on ait fait la mission, après tout ça, il m'a pris sur le cabinet, il m'a dit, bon, tu restes au cabinet, dans son grand bureau superbe avec les fragonards au plafond, là. Et puis, il me dit, j'ai besoin d'un pasteur à Matignon. Il se trouve que j'avais fait des études de théologie, que finalement, en grande partie à cause de la guerre d'Algérie, je n'étais pas devenu pasteur, mais j'avais fait des études de théologie, il le savait, et j'avais même fait quelques mariages, quelques services officiels. Et Michel savait tout ça, et il me dit, j'ai besoin d'un pasteur à Matignon. Tu sais bien pourquoi, c'était évidemment la dimension éthique. Et il me dit, donc on va se vous voyez, parce que j'ai toujours voyé les pasteurs. À partir de maintenant, et tout le temps qu'on est à Matignon, on se vous voit. C'était formidable, c'était exactement lui, ça. C'était plus l'ami avec qui on allait écrire des choses. J'avais une fonction politique, qui était celle de veiller à l'éthique du Premier ministre. Avec une exigence fondamentale chez Rocard, c'est qu'il ne peut pas y avoir de différence éthique entre la fin et les moyens. Si la fin doit être éthique, les moyens doivent l'être à tout moment. Et ça a toujours été vrai. Bref, le protestantisme, c'était ça chez lui. Et c'est très important, c'était aussi lié à une émotion extrêmement profonde. C'est que Rocard, donc, avait été très conscient de la guerre, parce que son père était parti à Londres très tôt, que les Allemands, la Gestapo était débarquée chez eux pour récupérer, essayer de trouver des papiers du père, qu'ils avaient su qu'il était là-bas, que Michel avait contribué à cacher ses papiers. C'était toute une histoire dramatique. Il avait été très, très marqué par la guerre. Et surtout à la libération en 1945, il avait été chargé avec d'autres scouts de France catholiques, mais aussi des scouts protestants, avec sa troupe d'éclaireurs de France, il avait été chargé d'accueillir les déportés. Ça l'avait extraordinairement marqué, mais de façon définitive. C'est-à-dire que ça revenait de temps en temps, et toujours avec la même émotion absolue. Et l'idée que ce qu'il disait, que des hommes puissent faire ça, des hommes, c'était quelque chose de terrible, et donc ça a motivé absolument son engagement, que son christianisme, son engagement dans le scoutisme, son engagement dans le protestantisme, à l'époque, dans la foi, impliquait l'engagement politique. Il fallait changer le monde, parce que ce monde était insupportable.
Et puis en 1945, j'ai fait partie des détachements de Boy Scouts qui ont été réquisitionnés pour aller accueillir les déportés retour des camps. Et comme on pouvait pas faire le traitement médical, le dépouillage et tous les soins nécessaires sur place, on les avait fourrés en autocar avec des précautions minimales de survie, et ils arrivaient dans les tenues, même pas rasés ni nettoyés, et avec les vêtements déportés à l'hôtel Lutetien. C'était un spectacle horriblement impressionnant. On ne parlait pas, était les yeux dans le vague. Enfin, ceux qui arrivaient là étaient sauvés, mais dans un état terrifiant. Alors tout ça compte beaucoup. Juste après, la France se lance dans la reconquête militaire de son empire, et là, stupidement, nous suivons bien sûr les affaires d'Indochine avec inquiétude, d'autant que de grandes voix, la presse de l'époque, les poètes j'allais qualifier Camus de journaliste, si vous voulez, il était éditorialiste à ce moment-là, décrivait quand même un monde où ceux qui avaient contribué à la guerre, tout en étant décolonisés avant, avaient vocation à marcher vers l'indépendance.
L'une des choses, donc, dont je suis le plus fier, c'est que nous autres écrivains algériens, nous avons fait notre devoir. Et nous l'avons fait depuis longtemps. Ce que je veux dire de plus précis, c'est que nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera, je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera, je ne sais pas non plus ce qu'elle nous coûtera encore en sang et en malheur. Mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres écrivains algériens, nous l'avons faite hier.
Roland Carol, vous avez rencontré Michel Rocard en quelle année ?
Je pense avoir rencontré Michel Rocard en
1962, moi j'avais donc 21 ans et un peu par hasard, je sortais de Sciences Po et de l'UNEF et on m'a demandé de prendre le secrétariat du Club Jean Moulin, qui était une association qui regroupait quelques petites centaines de aux fonctionnaires, de syndicalistes, de journalistes, d'écrivains, de gens qui essayaient de réfléchir à une nouvelle façon de faire vivre la démocratie. Et Michel Rocard était membre du Club Jean Moulin, très actif. Et le Club Jean Moulin, c'était un club de gauche, mais qui comprenait une aile libéral, notamment libéral en économie. Donc ça allait en vérité du centre droit à une gauche franchement à gauche, et par exemple à des membres du PSU où était Michel Rocard. Michel Rocard avait été passé par le Parti socialiste, CFIO, et à cause largement de la guerre d'Algérie et du fait que le secrétaire général du Parti socialiste, Guy Mollet, avait fait la guerre en Algérie, assez violemment même, la gauche du parti avait quitté le Parti socialiste et CFIO et avait créé un parti qui s'appelait le PSA, le Parti socialiste autonome, où était Michel Rocard, et ce PSA a fusionné avec d'autres groupuscules de la gauche de la gauche pour fabriquer le PSU en 1960. Donc Michel Rocard était devenu l'un des jeunes animateurs de ce jeune PSU qui se battait encore quand je l'ai connu, donc pour la fin de la guerre d'Algérie par la négociation, on était encore dans la fin de la guerre d'Algérie et qui commençait à réfléchir à ce que pourrait être le socialisme en France après la guerre d'Algérie qui à ce moment-là occupait largement les esprits.
Michel Rocard, rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre d'Algérie, édition critique publié sous la direction de Vincent Duclerc et Pierre Encrevé. On a publié ça à Mille et une nuits en juin 2003. Ça a d'ailleurs très peu d'écho. Et pourtant, ce sont des textes très importants si on veut comprendre Michel Rocard, surtout qu'il a fait une introduction tout à fait explicite sur la manière dont toute cette chose-là s'est passée. Pour moi, ça avait beaucoup d'importance. Pourquoi j'ai édité ce texte avec Vincent Duclerc, à l'initiative d'ailleurs de Vincent Duclerc. Parce que c'est par ce rapport que j'ai connu Michel Rocard. J'étais jeune étudiant et j'étais très motivé par la guerre d'Algérie. On faisait des manifestations presque tous les jours dans le quartier latin. Et j'étais arrivé, donc ça c'était en 58, je suis arrivé à Sorbonne en 58. Bref, en avril 59, Le Monde et l'Observateur publient tous les deux des extraits d'un rapport sur les camps de regroupement où il y avait plus d'un million de personnes regroupées sans que rien ait été prévu, donc séparées de leurs habitations, de leurs terres, de leurs animaux domestiques, et sans que rien n'ait été prévu pour les nourrir. Et Rocard, qui était envoyé comme énarque en Algérie pour faire le cadastre des propriétés de l'armée, c'est quand même extraordinaire. Fin 58, Rocard donc, c'est une longue histoire, mais enfin, alerté par des amis, avait trouvé moyen de transformer sa mission en véritable enquête. Et il avait calculé qu'il y avait à peu près, c'est le chiffre est effarant et on ne le sort jamais, 500 enfants qui mouraient de faim par jour. Et donc il avait fait ce rapport qui avait été envoyé directement à De Gaulle, par l'intermédiaire d'un ami, Jean Maheu, qui était au cabinet de Gaulle et que Michel avait connu à Sciences Po, je crois. Et il avait été donné aussi au cabinet d'Edmond Michelet, le ministre de la Justice. Et dans ce cabinet, Edmond Michelet a décidé de le faire fuiter. C'était pas du tout. L'idée de Rocard, qui était un fonctionnaire extrêmement consciencieux, il considérait que c'était normal qu'il avertisse directement le général de Gaulle. Et donc, moi, j'étais un étudiant. J'habitais le foyer des étudiants protestants de Paris, et j'ai découvert ça dans la presse, et très vite nous avons su dans le protestantisme que l'auteur était Rocard. Donc ça m'a rocardisé instantanément, et puis il se trouve que novembre 59, un ami m'a proposé de venir avec lui à un des premiers meetings du PSA. Il y avait au milieu Mendès France, à droite et à gauche, il devait y avoir Martinet et Depreux, des gens comme ça, des grands qui ont été les patrons du PSU. Et Rocard devait être en bout de tribune, mais il était quelque part. C'est un petit jeune, on m'a dit que c'était lui, mais à l'époque, je n'en savais pas plus.
Très peu de temps avant tous ces événements, j'avais fait le choix professionnel de servir la France et pour ce faire, de servir l'État à titre civil. Un tel choix comportait naturellement un engagement d'obéissance. On n'est pas fonctionnaire sans cela. J'ai pendant quelques années admiré et largement fait mien cet adage anglais. Right or wrong, my country. Je lui trouvais même une certaine grandeur. Mais je suis ainsi fait que quand mon pays se conduit mal, j'ai du mal à le défendre. Dans ma fierté d'être français, pèse d'un grand poids le fait qu'au long de son histoire, la pensée française a tenté d'approcher l'universel. Et le fait que lorsque le problème s'est posé de dire pourquoi l'on voulait changer le système politique et social, on a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, laquelle ne limite en rien le champ qu'elle couvre aux habitants de l'Hexagone. De telles lettres de noblesse créent des obligations. La France est grande quand elle subordonne ses actes à l'éthique qu'elle s'est donnée. L'adage anglais est inadmissible. Dans ces conditions, servir la France, c'est aussi la prémunir contre d'éventuels errements. 15 février 2003, extrait de la préface de Michel Rocard au rapport sur les camps de regroupement en Algérie. Le rapport fut écrit par Michel Rocard en 1959, mais il ne fut publié qu'en 2003. Malgré son anticolonialisme, Michel Rocard ne signe pas le manifeste des 121 et il explique pourquoi.
Le manifeste des 121 est un truc d'irresponsable, je suis complètement désolé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a 300 000 jeunes Français sous l'uniforme qui font un très sale boulot, qu'il faut sortir. Ils sont 300 000. C'est pas pour sauver l'intellect et l'honneur de 12 qu'on va casser un travail et qu'on va surtout entreprendre de faire croire à ces 300 000 jeunes qui sont en train de se déshonorer et que leur dignité d'homme est foutue. Pas possible. Ils sont victimes d'une politique mauvaise qu'il faut changer en France. En plus, l'efficacité politique, on est de l'ordre de l'éthique du témoignage. Et c'est bon pour les prophètes et non pour les intellectuels. Je ne sais pas comment on définit le mot d'intellectuel. Il m'arrive de lire et de penser, je prétends appartenir à cette catégorie, mais je suis un homme politique. Et moi, je nage dans l'éthique de responsabilité, au nom d'une conviction, mais lorsqu'il y a conflit, c'est le cas de l'espèce, lorsqu'il y a conflit entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, un homme politique conséquent choisit l'éthique de responsabilité, c'est sa fonction. C'est pas un métier, mais c'est vraiment sa fonction. On a besoin de témoins, mais c'est un autre rôle. Il faut toujours avoir un appareil d'analyse critique de tout ce qui se passe, pour faire évoluer les choses, découvrir les souffrances, découvrir les erreurs. C'est du travail intellectuel. Mais la dénonciation extérieure est une chose, on peut en avoir besoin, on en a besoin, c'est un boulot. Les intellectuels dans un parti politique, ils ont la double charge de découvrir et de contre-proposer, de faire avancer la réflexion collective, naturellement.
Votre anti-modèle d'intellectuel engagé, c'est Jean-Paul Sartre, et votre modèle d'intellectuel
C'était Camus. Et j'ai été camusien tout le long. À propos de Jean-Paul Sartre, il y a autre chose. Toute l'émergence d'une nouvelle gauche et tout le réveil ultérieur du Parti Socialiste se fera contre les pronostics et les conseils de Sa Majesté Jean-Paul Sartre. Il ne faut quand même pas l'oublier.
Laurent Geoffrin, vous avez rencontré plusieurs fois Michel Rocard ?
Oui, souvent, notamment quand j'étais directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. C'était un ami de la famille, je puis dire. Et c'était un homme extrêmement, d'abord chaleureux, attentif, il tutoyait tout le monde, il avait un côté boy scout, ce qu'il avait été dans sa jeunesse. Et puis, il était inépuisable en propositions, analyses sur tous les sujets. C'était le prince de la parenthèse. C'est-à-dire qu'il vous faisait un discours, et il commençait, puis il ouvrait une parenthèse. Et puis, dans la parenthèse, il en ouvrait une deuxième, puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Alors, au bout d'une demi-heure, vous disiez, mais là, maintenant, il faut qu'il referme toutes les parenthèses. Il en a encore pour une demi-heure, parce qu'il faut qu'il remonte l'escalier des parenthèses, et donc c'est très long. Et il avait ce côté volubile et en même temps passionnant, parce que ce qu'il disait était toujours intéressant. Alors il avait un langage un peu à lui, il avait une maîtrise de la langue mi-technocratique et en partie militante, qui faisait que c'était une manière de parler très spéciale. Quoi. Mitterrand s'en moquait tout le temps en disant « mais il parle pas français celui-là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que Mitterrand était très littéraire, Rocard beaucoup moins. Mais en même temps, c'était une source constante d'idées nouvelles. Il y avait un mélange chez lui de compétences techniques, parce qu'il était haut fonctionnaire, inspecteur des finances, économiste, tout ça, et d'imagination militante. Il cherchait toujours des solutions. Et bon, c'était le regardisme. Le regardisme, c'était l'idée que c'est la société, finalement, qui va trouver des solutions progressistes et non pas l'État. C'est une vieille tradition du socialisme français. Il était proudhonien, alors que les socialistes souvent étaient jacobins ou marxistes. C'était un homme de rapport. Mitterrand lisait des romans, Rocard lisait des rapports. Mais il y avait quelque chose de romanesque dans la manière dont il lisait les rapports. Il en faisait une œuvre d'imagination. C'était des trucs austères avec des chiffres et tout. Et il en sortait un discours chatoyant. Et finalement... c'était un littéraire de la technocratie. C'est un paradoxe. Mais il avait vraiment cette capacité à enchanter les chiffres.
Alors Michel Rocard, dans votre parcours de protestant, on peut dire que vous êtes un parpaillot ? D'abord, c'est injurieux de dire à un protestant, vous êtes parpaillot ?
Non, c'est non. Pittoresque, humoristique, c'est moi j'aime bien.
C'est pittoresque. Bon.
Je suis un parpaillot.
Dans ce parcours, vous avez été secoué vous-même par la tragédie ancienne de la Saint-Barthélemy. Parce que vous êtes d'une discrétion tout à fait exemplaire, les protestants. On ne vous entend jamais.
C'est mieux comme ça. Le monde a du mal à vivre, hein. 6000 ans d'histoire connue, 10 000 guerres. Beaucoup sont des compétitions de territoire, beaucoup sont, si j'ose dire, laïques ou séculières. Mais tout de même, comme créatrice d'une foi intransigeante au nom de laquelle on tuait l'autre... Les grandes religions du livre, elles ont à s'expliquer avec leur seigneur voisin, puisqu'il paraît que dans les trois, on prêchait la paix et le respect de la vie. Moyennant quoi, comme tueuses, les grandes religions, elles auraient matière à une autocritique historique. Et mon rêve serait qu'un jour, elles soient capables de le faire ensemble.
Alors vous expliquez, vous affirmez dans votre livre, Michel Rocard, je ne connaissais guère le plaisir d'écrire avant cette rencontre avec l'édit de Nantes.
Ben moi, j'ai écrit que du laborieux jusque-là. Vous n'avez jamais écrit, vous, des motions de congrès?
Ah non, jamais. Donc ce sont des exercices difficiles.
Ennuyeux.
Hein.
Voilà. Oui, j'ai aussi écrit un livre dont je suis assez fier, qui s'appelle Les moyens d'en sortir et qui traite du chômage. Oui. Mais c'est un labeur.
Oui, mais là, vous dites.
Tant à écrire qu'à lire.
Mais là, vous dites, je ne connaissais pas le plaisir d'écrire. Et cela veut dire que vous avez maintenant envie d'écrire autre chose.
Non, je n'en ai ni la spécialité, ni le talent, ni le métier. Mon métier me vouera toujours aux négociations diplomatiques, à l'écriture de documents lourds. Le fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cet essai sur l'art de la paix à propos des lignes de Nantes ne veut pas dire que je vais devenir essayiste ou romancier. Non,
donc
vous savez, je me méfie beaucoup du mélange des casquettes.
Ouais. Donc l'écriture est totalement différente de la parole.
Ah oui, c'est autre chose. Et d'autant plus que j'ai un plaisir à la parole et je crois y avoir pas trop été maladroit.
Je me trouve actuellement sur le plateau de l'Odéon, au milieu d'une foule assez innombrable. Tous les mezzanines, toute l'orchestre est plein.
Rocard était à fond dans mai 68 et dans l'esprit du mouvement de mai.
Roland Kayrol.
Et Rocard n'a jamais été un trotskiste.
Alors, évidemment, c'est une chose un tout petit peu compliquée, parce que le trotskisme a mis la main sur l'image de mai 68, et on a le sentiment que c'était une espèce de gauchisme trotskiste permanent, mai 68. Ce que ça n'était pas, ou ce que ce n'était qu'en partie, quand on regarde les trotskistes. Mais il y avait aussi Danny Cohn-Bendit, mais il y avait aussi l'UNEF, avec Sauvageot, qui était évidemment au PSU. Il y avait le PSU, que les autres se sont chargés ensuite d'essayer de faire oublier. Puis il y avait aussi les Mao. Voilà, c'était une kyrielle de gens. Et puis il y avait toute une France voulant que ça change, et qui avait construit partout des organes de réflexion, des assemblées générales, où on discutait à perte de vue du changement de l'entreprise dans laquelle on était, ou de l'université dans laquelle elle était. Ça a été une espèce de centre national permanent de réformisme absolument inouï, où les gens essayaient de réfléchir à une autre façon de faire fonctionner tout ça. Et mai 68, c'est l'ensemble de tout ça, et d'ailleurs l'incapacité à faire que ça soit vraiment tout ça à la fois. Et Michel Rocard, il n'a jamais été un révolutionnaire. Il n'a jamais pensé qu'il fallait abattre définitivement les structures du capitalisme pour mettre à la place des structures collectives. On n'avait même pas encore inventé le concept d'autogestion.
Alain Bergougnoul, il y a quelques années gauchiste dans la vie de Rocard. Après 68 et jusqu'en 72, ça se traduit comment ?
Bah, Michel Rocard, lorsqu'il devient secrétaire national du PSU, c'est à la veille de 68, en 1967. Et là, c'est ça qui a fait sa force de séduction à un moment dans l'opinion, c'est-à-dire qu'il allie à la fois une certaine rigueur économique, hein, donc même un aspect un peu technocratique. Hein, un de ses adversaires du PSU, Jean Popren, l'appelait Rocard Destin, pour justement caractériser cet aspect technocratique, parce qu'il était dans la tradition manésienne, où il fallait être rigoureux. Comme il le disait souvent, quand on ne compte plus, c'est la peine des hommes qu'on ne compte pas. Et en même temps, Rocard avait un aspect utopiste, c'est-à-dire c'était la volonté de transformation sociale. Il a largement contribué, avec d'autres bien entendu, à la popularisation de l'autogestion. Donc c'était un mélange, comme il a été dit, quand le président de la République, François Hollande, l'a décoré de la Grande Croix de la Légion d'honneur, et il a employé cette expression, qui n'est pas fausse, le rêveur réaliste, quoi. Donc, mais à partir de 68, il y a eu un grand mouvement, évidemment, qui a saisi une partie de la gauche française. Le PSU était le parti qui était, avec ses liens avec les étudiants, avec le mouvement étudiant, était le plus à même de saisir un peu ce qui bougeait. Et il a été parcouru de courants contradictoires, et notamment avec l'entrée des trotskistes, des maoïstes, etc. Donc Michel Rocard a voulu tenir le cap, mais en même temps, il a fait beaucoup de concessions à la réalité du PSU des années 69, 70, 71. Mais il n'était pas vraiment à l'aise dans cette situation. Et pour garder le contrôle du PSU, une courte majorité, il a accepté une évolution politique, d'être critique vis-à-vis du Parti socialiste tel qu'il se constituait en 1971. Et donc, il s'est rendu compte à partir de 72-73 que cette évolution gauchiste du PSU n'amenait nulle part.
Il faudrait faire encore 5 autres émissions. Nous vivons une phase extrêmement dure parce que le capitalisme a changé de nature depuis une vingtaine d'années par rapport à l'après-guerre. Rappelez-vous l'après-guerre, Fourassier parlait des 30 glorieuses. Ça dit quoi ça, les 30 glorieuses ? 30 années de croissance à peu près régulière, sans drame, sans crise financière, pendant lesquelles la pauvreté baissait. Nous étions en plein emploi, s'il vous plaît, et la pauvreté, la misère de masse avait disparu des pays développés. Et puis, depuis 25 ans, d'abord, le capitalisme s'est internationalisé et échappé aux réglementations d'État qui lui imposaient ce corset. Et puis ensuite, il a échappé aux mains des managers. Tout dirigeant d'entreprise savait que son entreprise était d'abord faite de ses personnels. Et ensuite, des fournisseurs, des clients, des banquiers, des actionnaires, le tout un peu mélangé.
mais elle est personnelle. Nous sommes maintenant dans un capitalisme qui croit que le moteur de l'activité des hommes, alors que sous la phase précédente, c'était le salaire qui nous permettait de consommer, et c'était la politique de haut salaire qui faisait de la croissance, parce qu'on dépensait... Les salaires, c'est 90% des rémunérations nationales. Donc quand on reçoit des salaires et qu'on le consomme, il y a de la demande et ça fait de la croissance. Nous sommes maintenant dans un système où la référence centrale, c'est le profit. On s'arrange de licencier les gens qui payent de très mauvais salaires, pendant qu'augmentent vertigineusement toutes les rémunérations, au contraire, qui n'ont pas le caractère de salaire, des dirigeants d'entreprise et des grands actionnaires. Et tout ça est écrasant. Le système a grandi en cruauté. Il s'attaque, pour pouvoir y placer des rentes à profit, à nos services publics et à notre sécurité sociale. La pauvreté de masse a refait son apparition aux pays développés. Et je trouve qu'on tarde à prendre conscience de ce changement. Nous avons furieusement besoin de revenir au minimum à l'équivalent des grandes régulations qui équilibraient le capitalisme après la guerre. De forts services publics, une forte sécurité sociale, des politiques de haut salaire. Henry Ford, 1932, pour sortir de la crise. Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. J'attends pas que les salaires distribués soient intelligemment prélevés par une banque centrale et un appareil fiscal qui les reverse dans l'épargne. Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures. Et comme je suis le plus gros et le plus fort, je débauche les salariés des autres quand ils sont qualifiés pour faire la même politique. Ça a marché. 50 ans de capitalisme acceptable et humanisé. Et c'est ça qu'on est en train de nous casser.
Michel Rocard fut le candidat du Parti Socialiste Unifié, le PSU, à l'élection présidentielle de 1969. En 1981 et 1988, il aurait bien aimé être candidat à l'élection présidentielle, mais il a laissé sa place à François Mitterrand. Michel Rocard fut ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, ministre de l'Agriculture entre 1981 et 1985. En 1985, il a démissionné de son poste. Il fut Premier ministre de 1988 à 1991, maire de Conflans-Sainte-Honorine de 1977 à 1994, député des Yvelines, sénateur des Yvelines, député européen et premier secrétaire du Parti Socialiste.
Il incarnait à la fois, bien sûr, des idées politiques, mais il portait plus que ça, parce que le courant qu'il portait était à la fois un courant politique, mais aussi un courant culturel.
Alain Bergougnoux.
Et donc, il y avait un ensemble plus riche, et d'ailleurs, Rocard n'est pas compréhensible sans l'ensemble de militants politiques, de militants syndicaux, d'intellectuels, d'artistes. D'ailleurs, il y a le terme de deuxième gauche a été inventé un peu après. C'est le livre de Patrick Rockman et d'Hervé Hamon, 1982, la deuxième gauche, et il était essentiellement consacré à la CFDT. Il parlait bien sûr du courant politique. Donc à l'époque, il y avait véritablement un ensemble à la fois syndical et politique, et comme je dis aussi intellectuel et culturel, qui faisait que là, il y avait une alternative, un espoir, et puis une des originalités de Michel Rocard, mais c'était remonté bien avant, hein, dès les années 1960, hein, le colloque de Grenoble 1966, c'était qu'il n'a jamais pensé qu'on pouvait réaliser une transformation sociale sans l'implication des acteurs. Et donc avec le rôle fondamental des syndicats à l'époque. Et c'est ça qui était un des facteurs de différenciation avec la dite première gauche, qui était plus étatiste, qui donnait davantage la prééminence à la loi, alors que Michel Rocard, et on retrouve là évidemment toute l'histoire du PSU derrière, et aussi de l'évolution de la CFDT, pensait une transformation sociale à partir de la société.
C'est à Edmond Maire que...
Oh non. Et ceci explique ce que vous dites. C'est-à-dire, si Michel Rocard a évidemment sollicité, dans le fond, de manière testamentaire, Edmond Maire pour prononcer son éloge, en quelque sorte, c'est parce qu'il pensait qu'Edmond Maire représentait parfaitement dans les années 1970-1980 ce qui était la deuxième gauche.
Que la politique soit dure ou quasi impossible, c'est une permanence dans l'histoire. Depuis qu'on s'essaye à sortir des mains de la solde, depuis qu'on n'est plus dans les royautés absolues ou les empires, mais la double aggravation du changement technique du monde qui fait qu'il n'y a pas de pouvoir de décision là où il en faudrait, et que le système médiatique maintenant s'est écarté de l'information pour faire du spectacle, ça complique notre grand métier.
La raison pour laquelle il est sympathique, c'est ça, c'est que c'est un homme sincère. Ça n'empêchait pas de manœuvrer, mais c'est un homme sincère. Il a toujours défendu des idées cohérentes, les mêmes, sans faire beaucoup de concessions, finalement, à l'air du temps, et en essayant toujours d'imaginer ce que pourrait être le monde de demain. Donc les gens le voient en lui un professeur d'optimisme, finalement, et d'action. Pas un utopiste, mais quelqu'un qui veut toujours progresser. Et allié à son caractère, qui était très volubile, ouvert, drôle à bien des égards... ça faisait un personnage qu'on avait envie de soutenir, dont on estimait qu'il était ce qu'il y a de mieux en politique. C'était le sel de la terre en politique, c'est-à-dire quelqu'un à la fois de responsable et d'imaginatif, et d'honnête et de sincère.
Il y aura une rallonge à l'ouverture entre les deux tours, a souligné de son côté Michel Rocard hier soir en meeting dans l'Oise à Crépy-en-Valois. Le Premier ministre qui a une nouvelle fois prêché pour le rassemblement.
Pour que l'ouverture soit vraie, que les gens qui nous rejoindront ne soit pas suspect, soit de trahison, soit d'avoir simplement voulu aller à la soupe. Il faut qu'ils le fassent pour des raisons convaincantes jusque pour leurs propres amis. Il faut que quand vous retrouvez face à face autour des panneaux d'affichage les couleurs d'affiche de ces gens-là qui nous rejoignent, vous serriez la main au lieu de croire que vous vous retrouvez dans les vieilles confrontations. Une vraie aventure, ça. Parce qu'il y a une urgence. Et l'urgence, c'est Le Pen qui nous la présente.
Alain Bergugno, il était... armé pour ces bagarres politiques. Michel Rocard, il aimait ça ou...
Michel Rocard a fait de la politique. Il a tenté aussi des manœuvres tactiques, avec moins de succès que François Mitterrand. Mais il n'a pas répugné à la bataille politique de ce point de vue. Mais en même temps, il avait ce qui était à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire que pour Michel Rocard, ce qui prime, c'est quand même d'abord les idées, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, il n'a pas eu le comportement d'un chef politique pour qui tout passe par la victoire politique. Michel Rocard a été capable de défendre ses convictions, même dans des situations qui le plaçaient dans une position difficile et minoritaire.
La Constitution de la République française est bizarre et elle donne à notre pays une stabilité de l'exécutif qui lui est très nécessaire, c'est-à-dire qu'elle fait 58 millions de citoyens heureux puisque ça marche à peu près. Mais il y a un malheureux dans le coup dont la fonction est définie probablement par une équipe de sadiques, c'est le Premier ministre qui est responsable de tout, qui est saisi de toutes les difficultés, tous les empoisonnements et tous les coups durs, mais qui ne peut pas prendre de décision importante sans demander la permission à papa, l'élu du suffrage universel. Et personne ne résiste. Un sur deux des gens qui entrent dans cette fonction sort pratiquement à l'horizontale.
Et pourquoi tout le monde a envie d'y aller alors?
Peut-être un peu moins que vous ne croyez. En tout cas, il est vrai que pour un individu normal, c'est-à-dire pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, le fait d'arriver à Matignon, du point de vue de la carrière, est prodigieux. Une carte de visite de bâton de maréchal, un titre qu'on vous ressort, quitte à en rigoler, vous avez bien raison, moi aussi, d'ailleurs, le restant de votre vie. La République royale paye à tout ancien Premier ministre une voiture et un chauffeur et une secrétaire pour le restant de ses jours. C'est un avantage tout à fait énorme.
Arrivé donc dans son à le voir énormément à partir de mai 86, en octobre je crois, j'ai organisé un dîner chez une amie qui est aussi proche de Michel Rocard, Sylvie Hubac, un dîner avec Claude Simon qui avait le prix Nobel et qui était un ami proche, Pierre Soulages, Et je ne sais plus qui d'autre.
Et Rocard et Bourdieu?
Rocard et Bourdieu, c'est pareil. Bourdieu était un ami proche pour moi. Et Bourdieu, qui n'avait d'indulgence pour aucun politique, en avait pour Rocard, notamment à propos de la Nouvelle-Calédonie. Bourdieu a fait un texte dans Le Monde qui s'appelle « La vertu civile ». C'est l'unique texte qu'il a fait pour appuyer un homme et une action politique, c'était pour Rocard. On l'oublie toujours. Et quand Michel voit la page, il me dit « Pierre, j'espère que vous ne l'avez pas sollicité. » Je lui ai dit « Michel, je n'ai pas sollicité. » Non, mais c'est vrai que c'est moi qui ai pris contact avec Le Monde, parce que Bourdieu, pas quelqu'un a demandé au Monde s'il pourra passer. Et Le Monde a tout de suite décidé de le mettre en première page. Mais c'est lui qui l'a écrit. Bon, ça c'est typiquement lui.
Ce que j'ai fait de plus fort en politique, et pour moi quand même de plus magnifique, excusez-moi, c'est un peu immodeste, c'est évidemment cette improbable mais fabuleuse négociation en Nouvelle-Calédonie. 85% des Français l'ont approuvé, c'est formidable. Bon. Mais c'est quand même à la suite de cela que j'ai subi les insultes les plus graves qui m'aient jamais été adressées.
Haute trahison envers l'État.
Voilà, mériterait la Cour de sûreté de l'État, sinon le peloton, enfin, etc. Car tous ces mots portent trace et font mal. Des mots comme ça, même irresponsables, même rejetés par l'essentiel du corps social, brisent l'image. C'est un miroir dans lequel il y a eu un caillou lancé. En politique, il est impossible de faire un acte, de prendre des mesures qui satisfassent tout le monde. Vous ne pouvez trancher contre des avis contradictoires, même un rapport de force faible. C'est ça la difficulté du métier politique, et Freud l'avait très bien compris. Nous sommes dans la banalité la plus écrasante là-dessus. Toute la littérature l'explique.
La difficulté qu'a eu Rocard en politique avec les gens, c'est plutôt lui, non pas dans les partis, dans les organisations, dans les meetings, etc., mais avec les électeurs. Comment est-ce qu'on fait pour aller parler à ces gens, un peu mystérieux, sans les embêter ? Je me souviens, un jour sortant de sa mairie de Conflans-Sainte-Honorine, moi, je faisais les études et sondages de la mairie de Saint-Honoré. Donc, j'étais venu au bureau municipal expliquer les problèmes des voies piétonnes, etc., de Conflans-Sainte-Honorine. La réunion se termine avec une demi-heure d'avance sur leur programme. Donc, on descend. Il y a, là, à Conflans-Sainte-Honorine, rue principale, qui s'appelle la rue Maurice Berthaud. Le premier adjoint de Rocard était Jean-Paul Huchon. Et il lui dit, on a une demi-heure d'avance sur le programme, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Paul ? Et l'autre lui dit, on va faire les commerces de la rue Maurice Berthaud, tu vas venir saluer les uns et les autres. Et Michel répond, non, on va déranger. Voilà. Là, il y a une espèce de difficulté à savoir comment se comporter naturellement avec des gens qu'on vient juste embêter.
Et pourtant, il était très aimé.
Oui,
à Conflans, donc
absolument. Il avait des scores formidables, mais voilà, ça ne se fait pas.
Par discrétion, c'est
par discrétion, oui. Comme une espèce de retour protestant inattendu.
Et pour moi, Michel Rocard, et je le dis.
Marisol Touraine.
À la place que j'occupe aujourd'hui. Pour moi, Michel Rocard a été trop souvent récupéré comme l'homme qui aurait réconcilié la gauche avec l'économie de marché, avec la réalité du capitalisme. L'homme de gauche qui aurait dit qu'il n'y avait pas, au fond, d'autre économie possible que l'économie de marché, que toutes les solutions d'économie étatisée avaient échoué. C'est vrai. Mais il n'a jamais pour autant renoncé à son ancrage social et à l'histoire sociale du socialisme. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que on considère que la réalité économique doit être assumée comme telle que l'on renonce au progrès social. Et Michel Rocard était un homme qui avait une conscience aiguë de l'histoire et de l'histoire du socialisme, mais cette conscience-là ne l'amenait pas à regarder en arrière, elle l'amenait à se demander ce qui, dans le moment présent, et pour l'avenir, était la meilleure manière de porter le progrès. Parce que celles et ceux qui, à gauche, imaginent que c'est en refaisant à l'infini ce qui a été fait il y a 20 ans, 50 ans ou 100 ans, que c'est en se contentant de prolonger les acquis du passé que l'on est progressiste se trompent lourdement, puisque évidemment le monde change, la société change et les aspirations des Français changent.
Moi j'ai adhéré en 1949, ça fait un bail, 56 ans maintenant, waouh. Mon parti va mal, et il va mal parce qu'il n'a jamais, depuis un siècle, depuis sa naissance, jamais tranché ce conflit entre une vision tout politique, centralisée, un peu méprisante de la société civile, le politique peut tout, et disons jacobine, et à dominante nationale d'abord, faiblement orientée sur la scène internationale, et aussi à dominante d'économique et de sociale, face à une autre vision, beaucoup plus décentralisatrice, beaucoup plus sensible au dialogue social, à la relation avec les syndicats, les coopératives, les mutuelles, les forces vives de toute nature, et beaucoup plus soucieuse de faire avancer la France par le contrat, la négociation, en mélangeant l'économique et le social et en s'abstenant, autant que faire se peut, d'utiliser la contrainte de la loi pour ce faire. Ce sont deux cultures antagoniques. Tout ça a de la noblesse. Et mes relations avec Mitterrand ont été difficiles. Je ne laisserai tous les gens qui ont déguisé ces relations en haine se sont trompés. Je ne laisserai croire à personne que nous avons mal gouverné tous les deux. La lecture, c'est que deux visions se sont confrontées, que c'était dur.
On imagine que les politiques sont forcément ennuyeux. C'est pas possible. Ils sont tout le temps d'adrénaline, ils sont tout le temps stressés, et ils sont plutôt gais. Pour moi, c'était ça la grande différence avec les grands intellectuels. L'ensemble des intellectuels, en général, sont quand même des dépressifs. Les politiques sont des hystériques formidables. Et c'est beaucoup plus gai de vivre avec eux que de vivre avec les intellos. Alors bien sûr, dans les intellos, il y a des gens comme Foucault, tout le temps, du même genre, on va dire. Il y a de tout, hein. Mais la moyenne, les grands sont toujours un peu partout, plus ou moins hystériques, c'est, je crois, ce que disait Lacan, et c'est vrai. Mais la moyenne est dépressive. Les politiques, ils sont tout le temps au sommet. Ceux qui ont le pouvoir, les députés, sont dépressifs. Mais ceux qui ont le pouvoir, ils sont toujours tendus. Et donc, on s'amuse. Car, je suis obligé de revenir en arrière, quand il a appris qu'il avait un cancer, c'est-à-dire en janvier 2015, a appelé, il voulait qu'on vienne dîner tout de suite. Bon, on est venu dîner et il m'a dit, Pierre, je vais passer à ma gauche, on va tout préparer. Donc, à partir de ce moment-là, on a préparé. Alors lui, il avait écrit une lettre à moi et à Dreyfus pour nous dire qu'il ne demandait rien à l'État, que c'est l'État qui déciderait. Il n'avait rien demandé. Mais qu'en revanche, il veut absolument aller au temple, expliquer pourquoi, justement, pour rappeler ses fondements éthiques de sa politique. Et d'autre part, qu'il voulait aller à Solferino, un hommage à Solferino. C'est tout à fait frappant, parce que tout le monde disait que ça avait des liens compliqués avec les partis socialistes. Il voulait un hommage du parti socialiste. Il était au parti socialiste depuis 48. Il avait été premier ministre, il avait été premier secrétaire. Il voulait, comme au roi, un hommage à Solferino. Bon. Donc, le 13 mai. J'avais organisé un déjeuner ici avec lui et le président de l'Église réformée. Non, ça s'appelle maintenant l'Église protestante unie, le pasteur Laurent Schomberger, pour précisément arrêter exactement le service tel qu'il le voulait, parce qu'il avait des idées extrêmement précises, il savait quel cantique il voulait qu'on chante, etc. Le pasteur lui avait dit sur quoi il prêcherait, et on avait entièrement organisé la chorale qui viendrait. Il avait entièrement organisé son service funéraire au temple de l'Étoile. Dans la foulée, je lui avais demandé, moi, et qu'est-ce que je fais du point de vue officiel? Je suppose que François Hollande me proposera, comme pour mon roi, qui avait exactement les mêmes titres et qualités que toi, c'est-à-dire Grand Croix de la Légion d'honneur, ancien Premier ministre, ancien Premier secrétaire du parti, il lui a proposé les Invalides, ils ont pris, et après il a une messe, est-ce que tu veux le temple, d'accord? Est-ce que tu veux aller aux Invalides? Il m'a dit, tu sais, les Invalides, moi j'ai rien à y faire. Et je lui ai dit, oui, mais si tu dis non, ça a quand même une signification politique. Il me dit, oui, t'as raison, d'accord. Si tu me proposes, tu acceptes. Seulement, tu lui demandes qu'il ne soit pas le seul à parler et qu'il accepte qu'il y ait un vieux rocardien qui parle aussi. Et je lui dis, bon, tu veux qui? Il a hésité un peu et me dit finalement, demande à mon maire. Ce qui est sûr, c'est que, donc, il n'a pas demandé le service national, mais il a accepté. Alors, on a préparé tout ça. Le 15 juin. Puis le 16, il a commencé à aller vraiment mal. Et le 19, il a eu une double embolie pulmonaire. Puis il a été à l'hôpital entre le 20 et le 2 juillet, il est mort. On était là. Donc, et après, il a fallu organiser cette affaire. Mais ce qui m'avait frappé, donc, c'était sa détermination, ce que tout soit parfaitement clair. Et, bien sûr, ce qui l'intéressait depuis des mois, c'était ce que ferait Soulages. Parce qu'il m'avait écrit dans l'été, il m'avait fait un mot en me disant, écoute, j'ose pas lui demander, est-ce que tu crois que je vais attenter en Corse, dans le village de Monticello, est-ce que tu crois que Pierre Soulages serait d'accord pour faire quelque chose, parce que ça sera une urne, on ne va pas emmener le corps. Et j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose. Ça sera tout à fait au bout du cimetière, face à la mer. Quelque chose qui ne défigure pas et qui soit aussi un hommage à la beauté du lieu. Et pour ça, j'aimerais bien que ce soit Pierre qui fasse quelque chose. Sur là, j'avais dit d'accord.
À Monticello, le cimetière est plein. Ne restez dans la partie haute, au-delà des caveaux, qu'une micro-parcelle trop petite pour une tombe, suffisante pour deux urnes, au ras de la falaise. Arbres et tombeaux, tout est derrière nous. L'un des plus beaux paysages du monde. Et puis, bien sûr, qui dit cimetière, dit réconciliation. Le grand Pierre Soulages s'est chargé de pourvoir à ce que les objets à placer là, une urne, puis deux, un support, une plaque, puis deux, magnifient la beauté du lieu plutôt que de la déparer. À l'occasion, venez nous voir, me voir. Il faut garder les liens. Peut-être entendrez-vous les grillons, sans doute écouterez-vous le silence. À coup sûr, la majesté et la beauté de l'endroit vous saisiront. Quel autre message laisser que de vous y convier? Lettre de Michel Rocard, écrite 2 ans avant sa mort. Michel Rocard, l'éthique de responsabilité. Une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec Marisol Touraine, Pierre Encrevé, Alain Bergugno, Roland Kerol, Francis Rocard et Laurent Geoffrin. Archivina, à voix nue Laure Adler, 2005. Figure de proue, Jacques Chancel, 1997. Culture Matin, Jean Lebrun, 1997. Et discours de Michel Rocard dans l'Oise, 1988. Prise de son Yann Frécy et Étienne Leroy. Mixage Jason Taous. Attaché de production Claire Poinsignon. Coordination Irène Omelianenko.
Merci pour votre écoute. Cette émission est disponible en ligne et podcast sur le site de France Culture. Vous pouvez nous joindre via Twitter et Facebook. Samedi prochain à 16h, rendez-vous pour Une vie, une œuvre, Charlotte Salomon.